Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Il y a de grands organismes qui s'engagent pour la paix. Pax Christi est un de ceux-là. Pax Christi est né en France en 1945 à l'initiative de chrétiens français et allemands. En 1950, il devient Mouvement catholique international pour la paix. Et aujourd'hui, Pax Christi est présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents et il est reconnu comme une ONG auprès de l'ONU et de l'Union européenne. La paix, l'affaire de tous, une idée forte que porte ce mouvement. L'initiative du mouvement revient à une professeure du lycée d'Agen durant l'hiver 1944-45. Elle ressent l'urgence d'une campagne de prière pour la réconciliation franco-allemande. Elle en fait part à Mgr Saliège, qui accepte. Voilà le début de l'histoire. Aujourd'hui, sur le site internet français du mouvement, vous trouverez la proposition d'un pèlerinage en Terre Sainte du 1er au 8 mars 2024 à la rencontre des acteurs de paix. Pendant 8 jours, en visitant les sites historiques, il s'agit de rencontrer les acteurs et les communautés qui œuvrent à la paix. Palestiniens, ou Israéliens, musulmans, chrétiens ou juifs, chacun d'eux partagera la réalité et la complexité de son engagement quotidien. Le groupe pourra prier avec eux, leur manifester son soutien et devenir leur porte-parole de retour en France. Probablement qu'ils rencontreront Daoud Nassar. Au sud-ouest de Bethléem, la ferme de la famille Nassar a été déclarée terre d'État par Israël en 1991. Cette famille palestinienne chrétienne a choisi la résistance pacifique pour tenter de conserver, malgré les pressions et les brutalités, ces terres menacées de confiscation. Au fil des années, avec un soutien international, la ferme de la famille Nassar est maintenant devenue un beau lieu de rencontre autour de la paix et de la non-violence. On en reparlera. Aujourd'hui, dernier entretien avec Alain Refallo. On se retrouve pour notre dernière rencontre sur l'émission. Et on va parler de ce centre de ressources de la non-violence qui est à Colomiers et que vous avez créé en 2003. Comment fonctionne-t-il? Comment évolue-t-il? Est-ce qu'on peut y adhérer? Et quelles sont ses missions? Quelles sont les actions dans lesquelles il s'engage?
Alors effectivement, le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées qui est basé à Colomiers, nous avons un local près du stade qui est bien connu des amateurs de rugby, le stade Michel Bindichou, dans lequel nous avons emmagasiné de nombreuses ressources pédagogiques sur la non-violence et l'éducation à la non-violence. Et ce local est un lieu de rencontre déjà, un lieu de réunion, un lieu de formation. Nous fonctionnons avec différentes commissions qui permettent, notamment sur la formation, sur les outils pédagogiques, sur la documentation, eh bien de continuer à développer ces ressources et à les faire connaître surtout. On peut y adhérer en tant que citoyen, c'est une adhésion annuelle de 20 euros, il y a même une adhésion petit budget à 10 euros, et si on le souhaite, on peut effectivement participer aux commissions de travail, de réflexion de ce centre de ressources. Donc c'est un peu une expérience unique en France finalement. Il existe bien d'autres associations, bien d'autres mouvements, mais qui sont davantage spécialisés soit dans la formation, soit dans l'action. Bon, je connais bien, par exemple, le mouvement pour une alternative non-violente, dont je suis l'un des co-porte-parole. C'est un mouvement qui a pour mission de faire valoir l'action non-violente, les potentialités de l'action non-violente dans les luttes d'aujourd'hui, que ce soit les luttes sociales, les luttes écologiques, Irak, les luttes contre la militarisation, donc sur différentes thématiques. Et donc le MAN est présent dans de nombreux collectifs de façon à faire valoir, à montrer que l'action non violente a un potentiel qui ne demande qu'à être utilisé. Et aujourd'hui, on voit bien malheureusement dans de nombreux mouvements sociaux depuis plusieurs années qu'il y a parfois des dérives, qu'il y a parfois des manifestations qui ne sont pas bien contrôlées. Il y a de la répression aussi. Et donc, face à cette répression, il est important, en tout cas c'est le point de vue de la non-violence, de maintenir le cap de la non-violence. La répression, aussi dure soit-elle, ne doit pas être le prétexte à une contre-violence qui ne peut être que néfaste pour le mouvement. En tout cas, c'est les leçons que l'on peut tirer de l'histoire des luttes sociales. Et donc, le centre de ressources sur la non-violence, comme le MAN, voilà, ont pour mission finalement de développer le fait que aujourd'hui, la non-violence a un potentiel qui est sous-estimé, sous-utilisé.
Alors comment on peut sensibiliser des secteurs, donc professionnels ou des secteurs spirituels ou des secteurs à la non-violence? Parce que on a peut-être l'impression que c'est quand même une petite communauté. Le concept est fort, les idées sont importantes, les défis sont énormes. Comment est-ce qu'on peut toucher, aborder, mobiliser de nouveaux acteurs?
Alors, c'est une question qui est difficile parce que effectivement il y a un abîme entre l'immensité de l'idée dont vous parliez et les faibles forces de la non-violence aujourd'hui en France. Dans d'autres pays, elles sont beaucoup plus importantes. Mais bon, il y a plusieurs entrées. Bon, par exemple, je donne chaque année des cours en ligne et en visio pour des étudiants du monde arabe, en partenariat avec une université qui est basée au Liban, c'est l'Université académique de la non-violence. C'est quelque chose qui est totalement inédit et très peu connu, en tout cas par chez nous. Mais dans le monde arabe, il existe une université de la non-violence qui dispense des cours pour des étudiants de nombreux pays arabes, et ils sollicitent régulièrement des intervenants de différents pays. Et pour la France, je suis celui qui travaille avec ces étudiants, à la fois sur l'idée de non-violence, à la fois sur des pionniers de la non-violence comme Léon Tolstoï, que j'ai beaucoup travaillé, ou sur maintenant Jean-Marie Muller, qui est décédé il y a 2 ans et qui nous lègue un héritage extrêmement important, qui gagne à être connu. Jean-Marie Muller a d'ailleurs participé activement à la création de cette université de la non-violence au Liban, où il a donné de nombreuses conférences, de nombreuses formations. Donc ça peut être une entrée. Une autre entrée, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être tout simplement de participer à des actions pour se rendre compte qu'il existe d'autres façons de lutter que la violence. Donc là, il y a pléthore de possibilités aujourd'hui. Et puis, il y a l'entrée plus éducative, on va dire, mettre en place dans les classes, dans les écoles, des outils, des situations qui favorisent la coopération, qui favorisent l'entraide, qui favorisent la résolution positive des conflits. Donc je crois qu'on peut s'intéresser à cette idée de non-violence de multiples façons. Il y a aussi un côté spirituel qui peut être aussi intéressant pour une démarche plus individuelle, plus personnelle. Il y a de nombreux textes qui font le lien entre spiritualité et non-violence. Donc je crois qu'il y a de multiples entrées, on va dire, dans la non-violence. En tout cas, c'est dans le livre dont on parlait tout à l'heure, je les évoque et je développe toutes ces entrées, ce qui constitue finalement une anthologie de la non-violence.
Alors, une dernière question. Au fond, là, maintenant, cette année, est-ce qu'il y a une direction, un combat, une idée, une envie que vous aimeriez transmettre ou expérimenter ou explorer?
Je crois que, par exemple, la guerre en Ukraine, qui occupe beaucoup d'esprit et qui a été un électrochoc en février 2022 pour tout le monde, a réactivé une idée qu'on pouvait peut-être réfléchir maintenant davantage à comment résister sans armes face à une invasion militaire, à une occupation militaire. C'est un sujet qui, au début dans les années 80, dans les années 70-80, était quand même assez développé. Il y avait des chercheurs, il y avait des écrits importants qui étaient publiés. Et aujourd'hui, on souhaite, dans le monde de la non-violence en France, réactiver cette réflexion. Donc j'y prendrai ma part. Effectivement, il existe des possibilités de résister sans armes face à une occupation. Il y a un livre qui fait référence, c'est le livre de l'historien Jacques Semmelin, qui a étudié toutes les formes de résistance civile durant l'occupation nazie en Europe. Et on est étonné, on est surpris de voir effectivement toutes ces initiatives, toutes ces actions qui ont permis, alors qui n'ont certes pas permis de libérer l'Europe de la domination nazie, hein, on ne réécrit pas l'histoire évidemment, mais qui montre que même en situation d'oppression, en situation d'occupation, il est encore possible d'agir, de résister sans forcément passer par la voie des armes. Et je crois que là, nous avons une piste de réflexion importante et la guerre en Ukraine favorise la réactivation de cette réflexion.
Merci Alain Ruffalo, et on retient bien cette réflexion et je pense que d'ici quelques mois, on pourrait faire un point sur l'avancée de cette question. Merci
Merci beaucoup de votre invitation.
et bonne semaine.
Merci à vous.
J'ai posé une question à l'intelligence artificielle de mon moteur de recherche. Quelle relation y a-t-il entre l'écologie et le prix Nobel de la paix? Elle m'a répondu. En 2007, le prix a été décerné conjointement au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et à l'ancien vice-président américain Al Gore pour leur travail sur la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux et leur contribution à la lutte contre le changement climatique. 2007, la date donc où on reconnaît que la crise climatique et les dégâts sur l'environnement ont un impact pour la paix dans le monde. On ne parlera pas du GIEC aujourd'hui, mais simplement de Al Gore. En 1992, alors qu'il était vice-président des États-Unis, Al Gore avait déjà commencé à se faire connaître comme un politicien soucieux de l'environnement, notamment grâce à son livre Earth in the Balance, dans lequel il abordait le problème du réchauffement climatique. Après avoir perdu l'élection présidentielle de 2000, il décide d'utiliser son influence pour accroître la sensibilisation du public aux États-Unis et dans d'autres pays sur la gravité de la situation. Cela aboutit à un film documentaire, Une vérité qui dérange, 2006. Et selon le comité Nobel, Gore est probablement la seule personne qui a fait le plus pour inciter le public et les gouvernements à prendre des mesures pour relever le défi climatique. On a pu lui reprocher son approche catastrophique, mais il faut reconnaître, c'est quand même l'un des premiers à avoir le souci d'alerter largement les populations. À la semaine prochaine.